À 19h en temps universel, 20h à Paris, le point sur l'actualité à l'international, c'est avec vous Martin Guez. Bonsoir Martin.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Et à la une de l'actualité justement, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, Manuel Valls, ils sont tous de retour au gouvernement. Après une dizaine de jours de tractations, le Premier ministre François Bayrou et le Président de la République Emmanuel Macron se sont mis d'accord. Victorien Guillaume nous dévoilera la composition d'équipe dès le début de ce journal. Un gouvernement qui intervient au terme d'une journée de deuil national en France, drapeau en berne, minute de silence observée pour les victimes du cyclone Chido à Mayotte. 10 jours après son passage, l'aide humanitaire tarde toujours à venir dans l'archipel française de l'océan Indien. Aux États-Unis, Luigi Mangione plaide non coupable du chef d'inculpation de meurtre terroriste, soupçonné d'avoir abattu le patron d'une célèbre assurance maladie dans le pays. Enfin, en Australie, l'hiver est chaud, beaucoup trop chaud dans l'état de Victoria, autour de Melbourne, où les flammes dévorent la région. Retour vers le futur donc avec Elisabeth Borne, Gérald Darmanin ou encore Manuel Valls, François Bayrou qui fait du neuf avec du vieux, le Premier ministre qui a donc composé son nouveau gouvernement, annoncé il y a quelques minutes à l'Élysée par Alexis Kohler, le secrétaire général de la présidence. Composition d'équipe dont on n'a pas perdu une miette. Victorien Guillaume du service politique de RFI. Bonsoir Victorien.
Bonsoir Martin, bonsoir. Alors, à toutes et à tous.
Quatrième gouvernement de l'année 2024 en France, avec donc un petit air de déjà-vu et plusieurs revenants.
Oui, vous savez, François Bayrou ambitionnait d'avoir une équipe de poids lourds, comprenait des responsables politiques connus et qui ont occupé de hautes fonctions. Eh bien, on peut voir en tout cas que deux anciens premiers ministres arrivent au gouvernement. Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et puis, un nom qui devrait faire beaucoup réagir, Martin, Manuel Valls, ancien premier ministre sous François Hollande, hein, et qui devient lui ministre des Outre-mer. Autre revenant, Gérald Darmanin. Alors lui n'a jamais été Premier ministre, mais il a été longtemps, vous le savez, ministre de l'Intérieur et à regret, il n'avait pas réussi à obtenir de poste sous Michel Barnier. Et voilà qu'il hérite du portefeuille de la justice. En revanche, alors que son nom était cité jusque dans la dernière ligne droite, pas de Xavier Bertrand. Le ministère de la Justice lui échappe donc, lui qui est considéré comme un poids lourd à droite. Il se trouve que le Rassemblement National était fermement opposé à cette option. Et François Bayrou souhaitait par ailleurs une équipe resserrée. Martin, finalement, ils sont 34. Pas vraiment de changement. Donc, il y avait 4 ministres dans l'équipe, 4 ministres de moins dans l'équipe de son prédécesseur Michel Barnier.
Et Victoria, il y avait un troisième critère. François Bayrou qui ambitionnait d'avoir l'équipe la plus ouverte possible pour respecter les équilibres politiques nouveaux.
Oui, c'est sur ce sujet, hein, Martin, c'est plutôt un échec puisque comme dans le gouvernement Barnier, François Bayrou a surtout débauché en réalité des personnalités du centre et de la droite. Aucune personnalité véritablement marquée à gauche, en tout cas, aucune personnalité issue de la coalition du nouveau Front Populaire. On note simplement, Martin, l'arrivée de François Rebsamen qui a eu jadis sa carte au Parti Socialiste mais qui s'est rapproché il y a plusieurs années déjà d'Emmanuel Macron. Ça fait déjà un moment. François Rebsamen, lui, devient ministre de l'Aménagement du Territoire. Voilà, l'équipe étant maintenant connue, Martin charge à ses ministres de préparer dans l'urgence un budget 2025 et ce sera un certain Éric Lombard qui sera en première ligne, connu pour être directeur général de la Caisse des dépôts. Martin, il devient ministre de l'Économie.
Okay, merci beaucoup, Victoria Guillaume. Bon courage à vous, en tout cas, pour cette nouvelle longue soirée au service politique qui aura connu une année 2024 des plus chargées et le premier conseil des ministres de cette nouvelle équipe qui sera le 3 janvier prochain. Le discours de politique générale du Premier ministre, ce sera le 14. François Bayrou qui s'est dit ce soir fier de ce gouvernement d'expérience. Jordan Bardella, le chef du Rassemblement National, qui dénonce lui une coalition de l'échec. La composition du gouvernement Bayrou que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. L'annonce du gouvernement qui vient donc conclure une journée de deuil national en France, drapeau en berne et minute de silence en hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte. Un cyclone qui a fait au moins 35 morts, sans doute beaucoup plus. Et ce alors que les habitants manquent toujours de vivres et manquent d'eau principalement. L'État français vivement critiqué pour le retard de l'aide humanitaire. Emmanuel Macron qui a promis une loi spéciale pour rebâtir Mayotte et mettre fin aux bidonvilles. Ce qui pourrait prendre près de 2 ans selon le Premier ministre François Bayrou. Minute de silence en tout cas respectée ce matin à 11h, heure française à l'Élysée, à Matignon. Mais aussi en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris, dans la ville justement de Saint-Denis. Une centaine de personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville. Notamment Majida, commerçante de la ville, qui tenait à participer à ce moment de recueillement.
C'est une grosse tristesse, il n'y a pas de qualificatif pour qualifier ce drame. C'est des drames qui se répètent tout le temps, un peu partout dans le monde. Et on se pose des questions sur ces catastrophes qui arrivent. Ça vient d'où? Comment? qu'il n'y a que des misérables qui sont en situation de catastrophe. Je suis triste. Mon but ici, c'était la tristesse, la mémoire. On pense à eux. Je leur souhaite beaucoup de force, de courage et qu'ils se redressent. Que la vie continue malgré les malheurs.
Majida Abidan, habitante dionysienne au micro RFI de Baptiste Coulon. Il est 22h05 à Moscou, en Russie. Plus de 3000 soldats nord-coréens ont été tués ou blessés dans des combats avec les forces ukrainiennes. Combats dans la région frontalière de Koursk, région en partie occupée par l'Ukraine. C'est un bilan, c'est en tout cas le bilan qu'avance ce lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une estimation qui est trois fois supérieure à celle formulée par l'état-major sud-coréen. Toujours selon Séoul, Pyongyang qui pourrait envoyer de nouvelles troupes pour soutenir la Russie face à l'Ukraine. Environ 12 000 soldats nord-coréens ont déjà été envoyés en soutien de Moscou. Au Proche-Orient, la FINUL demande dans un communiqué à l'armée israélienne d'accélérer le mouvement. En vertu de l'accord de trêve scellé le 27 novembre dernier, Israël doit retirer ses troupes dans le sud du Liban sous 60 jours. La force intérimaire des Nations Unies et l'armée libanaise qui doivent, elles, s'y déployer. Mais pour l'instant, l'armée israélienne est toujours bien présente, alors que les deux camps s'accusent mutuellement de violations répétées du traité de cessez-le-feu. Le Premier ministre libanais Najib Mikati, qui a lui appelé ce lundi Paris et Washington à faire pression sur Israël pour accélérer le retrait de son armée. Et puis toujours au Proche-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui déclaré lors d'une intervention au Parlement qu'il voulait signer de nouveaux accords de paix afin de changer radicalement le Moyen-Orient. Il a par ailleurs évoqué des avancées pour un accord sur les otages retenus dans la bande de Gaza. Il reste encore 62 otages présumés vivants dans l'enclave palestinienne. Gaza, où l'armée israélienne a perdu 3 de ses soldats, annonce à l'instant l'État hébreu. Et puis aux États-Unis, Luigi Mangione plaide non coupable de meurtre terroriste, soupçonné d'avoir assassiné en pleine rue new-yorkaise Brian Thompson, patron américain du premier assureur santé du pays, pour se venger contre ce secteur. Une affaire devenue virale aux États-Unis après une cavale de 5 jours et une arrestation surmédiatisée. Le jeune homme de 26 ans qui est accusé d'avoir tué par balle et qui a été donc inculpé pour 11 chefs d'accusation, dont celui de meurtre en tant qu'acte terroriste devant la cour criminelle de New York. Une affaire qui choque et qui passionne l'Amérique, Romain Lemaresquier.
Accusé par le bureau du procureur de Manhattan de 11 chefs d'accusation, parmi lesquels meurtre au premier degré, délit lié au terrorisme, ainsi que 2 variantes de meurtre au deuxième degré, Luigi Mangione a plaidé non coupable. Arrivé au tribunal ce lundi, escorté par plusieurs policiers, mains menottées, chaînes aux pieds, le tout attaché à une autre chaîne métallique autour de sa taille, ce jeune homme issu d'une famille aisée de Baltimore, qui fut un brillant étudiant en ingénierie à l'université de Pennsylvanie, risque la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle dans l'État de New York. Il est également poursuivi au niveau fédéral, dans une procédure distincte, pour entre autres meurtre avec utilisation d'une arme à feu, motif qui pourrait lui valoir la peine de mort. Dans cet autre volet, Luigi Mangione a également plaidé non coupable la semaine dernière. Une affaire qui continue à passionner les États-Unis et qui a provoqué une polémique sur le système de santé américain et les assurances en particulier, accusées par de nombreux Américains de faire des profits sur le dos de leurs assurés. Pour rappel, les policiers qui avaient arrêté Luigi Mangione le 9 décembre dernier, 5 jours après l'assassinat du directeur général de United Healthcare, avait retrouvé dans ses affaires un texte manuscrit qui ciblait ce secteur.
Romain Lemaresquier est du service international de RFI. On termine ce journal en Australie, confronté à de très fortes chaleurs en cette fin d'année et confronté à d'importants feux de brousse. Les États du sud du pays s'apprêtent à passer les fêtes en état d'alerte, notamment dans le Victoria, où se trouve la ville de Melbourne et où les flammes ont déjà ravagé 40 000 hectares de terrain. Correspondance en Australie de Léo Roussel.
L'incendie qui frappe la région montagneuse des Grand Pions à l'ouest de Melbourne est hors de contrôle et devrait brûler pendant encore plusieurs jours. Mais ce qui inquiète les autorités de l'état du Victoria, ce sont les conditions météorologiques qui risquent de se détériorer et de permettre l'apparition de nouveaux foyers. Les températures vont grimper pour Noël et le thermomètre devrait dépasser les 40 degrés pour le Boxing Day, le tout accompagné de rafales de vent, des conditions décrites par les pompiers comme les pires depuis l'été noir qui avait vu le pays subir les feux de forêt les plus importants de son histoire en 2019. Dans l'état voisin, l'Australie méridionale, plusieurs secteurs ont été placés en état d'alerte extrême face aux incendies pour les fêtes. Même chose en Australie occidentale où les températures ont dépassé les 40 degrés ce lundi. 5 ans après les gigantesques feux de brousse, le risque d'incendie s'invite donc de nouveau pendant les fêtes en Australie. Les autorités ont appelé les citoyens à la plus grande vigilance. Léo Roussel, Sydney, RFI.
Et un mot de football pour finir, puisqu'on parlait du Boxing Day, la plupart des championnats sont en pause, mais pas la Serie A italienne, l'Inter Milan, qui accueille ce soir les mal classés de Côme, c'est dans une grosse demi-heure. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente soirée à l'écoute de RFI. Tout de suite, place à Accent d'Europe.